Bonsoir. À la une en ce lundi 18 novembre, vive réaction après le feu vert américain à l'utilisation par l'Ukraine de missiles à longue portée. Moscou accuse Washington de jeter de l'huile sur le feu. Les ministres européens sont partagés. Réaction et analyse en ouverture de ce forum.
Blocage de route et manifestations. Les paysans français à nouveau dans les rues. Motif de leur colère, l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Qu'en pensent nos agriculteurs? Le directeur adjoint de l'Union Suisse des Paysans nous le dira.
Il persiste et signe. Guy Parmelin ne veut pas aider les secteurs industriels en difficulté. Le Conseil fédéral a épuisé sa marge de manœuvre. Selon lui, est-ce vraiment le cas? On en débat.
À Genève, des automobilistes sont sidérés. La taxe sur leurs véhicules a explosé, tenez-vous bien, de plus de 800%. Résultat de la nouvelle loi acceptée par le peuple qui impose plus lourdement les véhicules les plus polluants. Le MCG réclame un moratoire. Débat dans une demi-heure.
Dans ce forum également, on entendra l'inquiétude du patron de l'UNRWA. Il n'y a pas d'alternative à notre présence dans les territoires occupés, selon Philippe Lazzarini.
Forum, c'est jusqu'à 19h sur la première et sur RTS2. Bienvenue.
Forum, Valentin Emery, Mehmet Gültaş.
Des missiles américains à longue portée pourront donc être utilisés par l'Ukraine.
Oui, la décision de Washington fait réagir les capitales du monde entier. Moscou met en garde contre le risque d'escalade avec une implication plus grande des États-Unis dans le conflit. Et du côté des pays européens, les ministres des Affaires étrangères étaient réunis aujourd'hui à Bruxelles, où l'on vous retrouve, Alain Franco. Les 27 qui ont plus de mal à donner leur feu vert à l'usage de leurs propres missiles pour frapper la Russie.
Oui, Mehmet, alors, il ne s'agit pas d'une décision de l'UE en tant que telle, mais de certains États membres, à commencer par la France. Paris répète depuis des mois que l'utilisation de missiles français livrés à Kiev pour toucher des cibles russes est, je cite, « une option ». Ce matin, le ministre français des Affaires étrangères ne s'est pas aventuré plus loin en arrivant à Bruxelles. L'Allemagne, elle, refuse toujours de livrer des missiles à longue portée. Elle annonce en revanche la fourniture de 4000 drones très sophistiqués, capables de pénétrer sur une quarantaine de kilomètres en territoire russe pour attaquer des postes de combat ou des nœuds logistiques. Une annonce qui fait suite à la conversation téléphonique du chancelier Scholz avec Vladimir Poutine vendredi dernier. Scholz était le deuxième leader européen à briser l'embargo sur les contacts avec le Kremlin, après Viktor Orban, très critiqué dans l'UE à l'époque. Interrogé à son départ de Buenos Aires, Emmanuel Macron a réagi ainsi. Poutine n'est pas prêt à négocier. Je pourrais lui parler, mais uniquement quand le contexte et les conditions s'y prêteront.
Et puis l'Union européenne, par contre, a annoncé avoir renforcé ses sanctions contre l'Iran. L'Iran, accusé de soutenir l'effort de guerre de la Russie contre l'Ukraine, en lui livrant des drones et des missiles. Alain, quelles sont ces sanctions ?
Alors ces sanctions, elles prévoient une interdiction pour les Européens d'utiliser les ports iraniens qui servent au transfert de drones, missiles et technologies destinées à leur fabrication. L'UE interdit aussi toute assistance aux navires impliqués dans ce commerce. Seront aussi interdits l'exportation, le transfert ou la fourniture depuis l'UE de composants utilisés dans la fabrication de missiles ou de drones par l'Iran.
Et outre l'Iran, l'UE a aussi l'œil sur la Chine qui aide la Russie dans sa guerre.
Alors là, l'UE affirme disposer d'informations en provenance de services de renseignement, sans donner lesquels, à propos d'une usine en Chine qui produit des drones destinés à la Russie. Si ça se confirme, cela aura aussi des conséquences, a lâché tout à l'heure Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères. Iran, Chine, Russie, ne manque que la Corée du Nord pour compléter ce tableau d'une alliance internationale soutenant Moscou, que plusieurs capitales pointent du doigt et que Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a été le premier à dénoncer au sommet de la communauté politique européenne à Budapest, en présence notamment de la présidente Viola Amert.
Alain Franco en direct de Bruxelles, merci.
Bonsoir Eric Osly.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste chroniqueur spécialiste de la Russie. Joe Biden jette de l'huile sur le feu. C'est comme cela que le Kremlin a réagi à la décision américaine d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée. Elle a raison, la Russie. Les États-Unis jettent de l'huile sur le feu.
Bah, je crois que, à l'évidence, disons, ce geste qui jusque-là avait été très clairement refusé par Joe Biden lui-même dénote une escalade. Il s'agira maintenant de mesurer dans quelle mesure cette escalade peut avoir des conséquences. Mais il est vrai que si on prend les critères que Joe Biden lui-même avait évoqués jusqu'à maintenant, c'est-à-dire nous ne livrons pas ces missiles de longue portée parce qu'ils n'apporteront pas un changement décisif au cours de la guerre d'une part et qu'ils vont provoquer, ils vont réaliser un nouveau risque d'escalade. On ne voit pas très précisément en quoi les choses ont vraiment changé ces dernières semaines.
Donc, je suis désolé de vous interrompre, Eric Osli, on a une information routière urgente.
Infotrafic RTS.
Soyez très prudents si vous circulez sur l'A1 Genève-Lausanne. On signale la présence de piétons sur la route entre le pont sur la Verso et Coppège. Je répète, soyez très prudents si vous circulez sur l'A1 Genève-Lausanne. On signale la présence de piétons sur la route entre le pont sur la Verso et Coppège. Voilà, Eric Osli, on parlait donc de cette décision américaine d'autoriser l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée.
Alors
voilà.
Justement, comment expliquer ce revirement? Parce que vous l'avez rappelé, jusque-là, les États-Unis avaient refusé de livrer ce genre d'armes. Qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi Joe Biden, soudainement, à 2 mois d'ailleurs de la prise de fonction de Donald Trump, dit « Ok, vous pouvez y aller ».
Bon, je crois qu'on peut voir au moins 3 facteurs dans cette décision. Le premier est à l'évidence une nature de politique interne. On va rendre de plus en plus difficile les velléités de Donald Trump de mettre un terme à cette guerre, puisque là quelque part on va la rendre encore un petit peu plus complexe, encore un peu plus disons à haute intensité. Un deuxième élément, je pense, qui est nécessaire de mentionner, c'est évidemment tout le débat autour de la présence de Nord-Coréens, et on voit dans la discussion qui a lieu encore aujourd'hui, puisque les critères d'attribution de ces missiles à longue portée ne sont pas encore complètement précis, on voit que les États-Unis pourraient avoir limité l'usage de ces missiles à la zone de Koursk, au fameux saillon de Koursk, qui est aujourd'hui l'objet de batailles et de combats extrêmement, extrêmement violents. Ça veut dire que, dans ce cas-là, évidemment, la présence possible de Nord-Coréens pourrait être le déclencheur américain, ou à l'inverse, on pourrait dire les Américains vont peut-être se retenir jusqu'à ce que les Nord-Coréens... Voilà. Donc on voit qu'il peut y avoir là, quelque part, matière à discuter. Et puis le troisième élément, c'est sans aucun doute aussi l'évolution de la ligne de front, de la situation militaire, puisque là, de manière tout à fait claire, depuis le mois d'août, on va dire, de manière assez simple, les Russes accentuent leur avance et l'accélèrent semaine après semaine, rendant la situation difficile.
Ouais, mais est-ce que cette décision américaine pourrait permettre d'inverser vraiment le rapport de force en faveur de l'Ukraine?
Alors, d'après les experts militaires, non. Ça va sans doute rendre les choses plus délicates. Ça va coûter plus cher à la Russie, et notamment sur ses arrières. Ça va sans doute aussi provoquer une réaction russe. C'est ce que Vladimir Poutine a d'emblée promis hier soir. Donc effectivement, on monte encore d'un cran. Mais on a vu jusqu'à maintenant que les différents seuils de cette escalade n'ont jamais permis jusqu'à maintenant d'inverser stratégiquement le cours de la guerre. Et à en croire les experts militaires, dont je ne suis pas, modestement, je lis qu'effectivement, il est très peu vraisemblable que ces missiles changent véritablement le destin de cette guerre.
D'ici 2 mois, on aura Donald Trump à la Maison-Blanche. Il a promis de mettre fin à la guerre en 24 heures. À quoi faut-il s'attendre?
Je pense qu'on peut raisonnablement attendre de la part de Donald Trump une tentative de réalisation de sa promesse électorale. À l'évidence, tout le monde le voit bien, ça n'est pas en 24 heures qu'on peut terminer une guerre de pareille complexité et avec aujourd'hui un bilan aussi terrifiant. Sans doute que, en revanche, la situation de négociation des Ukrainiens va se durcir très fortement. Et bien sûr que c'est aussi dans ce cadre-là qu'il faut voir la décision de Joe Biden qui, quelque part, donne un dernier atout aux Ukrainiens jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Mais je crois qu'on peut s'attendre à une tentative de négociation orchestrée et arbitrée par les États-Unis, qui ont effectivement, disons, la main complète ou quasi complète sur l'Ukraine.
On est plus proche que jamais de négociations?
De négociations, je pense, oui. Bon, il y a toujours eu des négociations ou des sous-négociations sur des aspects assez partiels. Mais là, effectivement, je dirais que la chance d'avoir une discussion est très grande. La question est de savoir, en revanche, si ces discussions peuvent réellement aboutir et si la Russie a vraiment intérêt, maintenant, à abréger rapidement cette guerre. C'est une question qui peut se poser.
Parce qu'elle gagne du territoire, la Russie. Donc elle aurait intérêt à prolonger le plus longtemps possible, avoir le maximum de territoire, puis peut-être que les fronts se figent à un moment donné, puis on en reste là.
Les Russes ont quelque part posé d'emblée et répété de manière très très claire leurs objectifs. Et en matière territoriale, grosso modo, on est encore assez loin du compte, puisqu'ils occupent, on va dire, à peu près trois provinces et demie sur les cinq qu'ils ont annexées et qu'ils ont finalement fait entrer constitutionnellement dans l'ensemble de l'Union de la Russie. Donc jusque-là, il y a encore de la marge. Et s'ils voulaient vraiment vraiment atteindre leurs objectifs, ils devraient continuer la guerre et sans doute pendant encore plus d'une année sur ce seul point. Ensuite, il y a un deuxième objectif, celui-là pourrait être en vue, c'est la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors là, effectivement, les déclarations de non seulement de Donald Trump, mais surtout de ses collègues sont assez claires. Donc là, il y a un intérêt très fort pour les Russes. Et puis après, il y a tout le reste qui, clairement, ne va pas s'arrêter. On voit bien que ce qui peut être discuté, c'est la fin des combats, mais certainement pas la fin de la guerre, ni la reconnaissance des territoires annexés, ni la fin des sanctions. Donc on a encore devant nous, je dirais, une période extrêmement tendue entre Occident et Russie.
Donc la paix en 2025, vous y croyez pas ?
Je ne crois pas à la paix en 2025, mais il est possible que les combats s'arrêtent.
Merci beaucoup Eric Hussely, journaliste chroniqueur spécialiste de la Russie, d'être venu ce soir dans Forum. Et direction la France à présent. Au moins d'un an après leur grand mouvement de colère, les agriculteurs manifestent à nouveau.
Oui, plus de 80 points de blocage et de manifestation aujourd'hui dans tout le pays et dans des lieux symboliques. Bonsoir Benjamin Louis.
Bonsoir Mehmet, bonsoir à tous.
Vous êtes rendu à Strasbourg, hein, où des paysans du Bas-Rhin ont décidé de bloquer et d'occuper le pont de l'Europe qui relie la capitale alsacienne à l'Allemagne. Que réclament ces paysans en colère ?
Alors deux choses principales. La première, c'est l'abandon de ce projet de traité de libre-échange avec entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est-à-dire donc plusieurs grands pays d'Amérique du Sud, dont les paysans craignent qu'ils inondent le marché européen de viande bovine, de riz, de soja, de qualité qui ne respecterait pas les normes sanitaires européennes et les standards de qualité français, par exemple. D'autant que les agriculteurs français, pas seulement ceux de la région où je me trouve, ont du mal à vivre de leur production. Et puis la deuxième revendication, et pas des moindres, c'est que les promesses qui ont été faites il y a 9 mois par le précédent gouvernement lors des blocages massifs, eh bien que ces promesses soient tenues.
Alors ce pont à Strasbourg, hein, le pont de l'Europe, est assez symbolique. Il n'a pas été choisi par hasard.
Non, alors ce pont sur lequel je me trouve, pour ceux qui nous suivent en vidéo, vous pouvez le voir derrière moi, ce pont c'est un axe majeur des échanges entre la France et l'Allemagne, évidemment, mais c'est aussi tout un symbole, car des agriculteurs allemands se sont aussi joints à cette manifestation pour montrer leur unité avec leurs collègues français. Et le symbole est fort, car on l'a dit, le gouvernement français, lui, il tente de s'opposer à cet accord entre l'UE et le Mercosur, mais le gouvernement allemand, lui, est pour ce traité de libre-échange. Le chancelier Scholz pousse à Bruxelles pour son adoption. Eh bien, les agriculteurs allemands, eux, ne l'entendent pas de cette oreille et ils le font savoir ici, aux côtés de leurs homologues français, sur le pont de l'Europe, sur les rives du Rhin à Strasbourg.
Le gouvernement français, qui tente de contenir le mouvement, est-ce qu'il a déjà apporté quelques réponses ?
Alors sur le Mercosur, c'est clair, on l'a dit, hein, la France s'y oppose et Emmanuel Macron l'a encore redit ce matin depuis l'Argentine et il fera part à nouveau au G20 de Rio aujourd'hui de son opposition. Mais la France n'est pas toute seule dans cette histoire, il va falloir qu'elle parvienne à constituer une minorité de blocage à Bruxelles, en clair, trouver au moins 3 pays alliés au sein de l'Union européenne et ça, ça n'est pas gagné. Et puis sur les promesses faites aux agriculteurs il y a 9 mois pour améliorer globalement leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, Michel Barnier, le nouveau Premier ministre qui est réputé proche des campagnes, a redit hier que toutes ces promesses formulées l'an dernier seraient bel et bien tenues.
Est-ce que ce mouvement peut prendre de l'ampleur, Benjamin, voire dégénérer, alors, comme cela s'est déjà produit par le passé ?
Oui, alors pour l'heure, un blocage total du pays, comme on a pu le vivre l'an dernier, n'est pas du tout à l'ordre du jour. La FNSEA, le syndicat majoritaire, dit pour l'heure vouloir s'en tenir à des actions symboliques et appelle les agriculteurs à la retenue. Mais je le répète, c'est pour l'instant, tous les agriculteurs à qui j'ai pu parler ici sur le pont de l'Europe m'ont dit être déterminés et que sans réponse satisfaisante des autorités, eh bien des blocages plus sérieux pourraient avoir lieu dès mercredi. Les tracteurs iront jusqu'à l'Elysée s'il le faut, a dit la patronne de la FNSEA ce matin. Quant à la coordination rurale, elle a déjà un plan en place pour bloquer le fret alimentaire dans le sud-ouest de la France dès mercredi.
Benjamin Louis, en direct de Strasbourg.
Et on va maintenant voir comment les agriculteurs suisses réagissent à ces nouveaux mouvements en France. Bonsoir Francis Heger.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint de l'Union Suisse des Paysans. Ces nouvelles manifestations en France, est-ce que vous les comprenez ? Vous êtes solidaire ?
Alors, il y a une certaine solidarité, même si les problématiques ne sont pas les mêmes. La solidarité, elle existe au niveau de la charge administrative, au niveau de prix insuffisants, hein, qui n'ont pas progressé, qu'on ressent également en Suisse. Mais la considération par rapport au Mercosur, il y a quand même deux différences significatives. La première, c'est que la France, elle produit à peu près 125% de taux d'auto-approvisionnement. Donc, elle doit exporter 25% de sa nourriture. Avec une pression des importations d'Amérique du Sud, ça poserait de réels problèmes aux Français, soit ils diminuent la production, ou soit soit, ils exportent sur les marchés internationaux. Nous, la Suisse, on doit importer 45% de notre nourriture. Donc finalement, que la viande de bœuf vienne d'Uruguay ou d'Irlande, si c'est la même, ça nous est égal. Puis l'autre élément important, c'est qu'au niveau européen, vous l'avez dit avant, cette décision risque d'être imposée par l'Europe. En Suisse, on sait très bien que l'accord va être discuté au Parlement et qu'il y aura très probablement un référendum. Donc le dernier mot sera donné à la population.
Mais sur le fond, est-ce qu'un accord avec ces pays d'Amérique du Sud serait une bonne chose pour la Suisse ?
Ah, si vous voulez, nous, on a un double intérêt. C'est qu'on a un intérêt d'avoir une économie forte. Donc, cet accord permettrait certainement de renforcer l'économie, mais avec la crainte d'avoir des concessions sur le dossier agricole. L'accord, il est en grande partie négocié. On peut dire à 90%, il est négocié. On sait déjà à peu près quels sont les types de concessions. Si c'est des concessions pour les produits sensibles à l'intérieur des contingents d'importation, ça nous pose pas trop de problèmes. S'il y a des concessions hors ces contingents d'importation, ici, il faudra qu'on négocie des mesures de compensation. Donc, pour l'instant, notre syndicat, l'Union Suisse des Paysans, on n'a pas de prise de position parce qu'on attend de voir l'accord, puis on attend de voir quelles sont les mesures de compensation qui seront proposées.
Il y a des lignes rouges à ne pas franchir ?
Oui, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, ça c'est clair. On a des produits qui sont sensibles. Les produits sensibles, on les connaît. Le lait, la viande de bœuf, certaines cultures au niveau du sucre. Par exemple, la betterave sucrière, on veut garder notre taux d'auto-approvisionnement d'à peu près 60% pour le sucre. Les huiles de colza, etc. Donc il y a des lignes rouges qui sont par rapport à ça. Avec un secteur qui sera certainement un secteur difficile, c'est le secteur du vin. Parce qu'on sait que certains pays d'Amérique du Sud ont la volonté d'exporter en Suisse.
Donc ça c'est pour le Mercosur. Vous dites qu'il n'y a pas de raison pour les paysans suisses de s'en alarmer. Il n'en reste pas moins que la colère est encore vive chez les agriculteurs aussi de Suisse. Fondamentalement, pas grand-chose n'a changé depuis les actions du début de l'année. On se souvient notamment des panneaux retournés. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir les manifestations reprendre en Suisse aussi ?
Oui, je pense qu'il est très probable que les manifestations vont reprendre. Nous, au niveau de l'Union Suisse des Paysans, on ne va pas organiser de manifestation, mais on est en contact avec ces groupes, ce qu'on appelait la révolte agricole suisse. Ce qu'on discute avec eux, c'est de faire des actions qui soient légales. Ça, c'est important, parce que je crois que l'illégalité en Suisse ne porte pas des fruits. Et puis ensuite, il faut avoir le soutien de la population. On l'a eu le 22 septembre sur les votations, sur l'initiative sur la biodiversité. La population soutient notre agriculture, donc il ne s'agit pas de bloquer des routes pour empêcher des gens d'aller travailler.
Mais vous avez toujours le soutien, ou presque, Francis Aiguer, de la population. À chaque votation qui concerne le milieu agricole de près ou de loin, la population vous donne raison, donc vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, non ?
Oui, mais on a une situation économique qui est quand même assez catastrophique. Il y a un rapport d'un postulat Bulliard qui a été publié cette année où on arrive à la rétribution horaire moyenne d'un agriculteur de 17 francs. Pour un agriculteur qui a des responsabilités, qui est soumis aux aléas du climat, du marché, etc., c'est inacceptable. Donc ici, il faut une amélioration par rapport à cette rétribution. Nous, on aimerait 40 francs de l'heure. C'est ce qui permettrait, puis c'est encore assez modeste, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne serait pas d'accord de travailler pour 40 francs de l'heure, mais c'est le minimum qu'on souhaiterait obtenir.
Ouais, Francis Aiguer, un mot d'un autre accord de libre-échange qui fait parler de lui, celui avec les États-Unis. Certaines voix estiment que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche donne une nouvelle opportunité à la Suisse. Comment accueillez-vous cette idée ?
Ouais, c'est un peu un débat chronique, ça revient tous les 3-4 ans. Je crois que j'ai déjà parlé deux fois à votre émission sur ce sujet-là.
Bah là, c'est Donald Trump qui revient en l'occurrence.
Ouais, c'est surtout certains politiciens suisses qui espèrent que dans ce sens-là. L'approche sera un peu différente. Parce que je ne pense pas que les USA ont une volonté au niveau des denrées alimentaires d'exporter massivement. C'est pas la même situation que l'Amérique du Sud. Donc il y a un contexte qui est différent. Il faudra aussi, nous on va rester avec nos lignes rouges, ça veut dire pas de concessions sur les produits sensibles en Suisse. Et puis après, il y a d'autres problématiques qui font faire que ça ne sera pas si évident. Les États-Unis travaillent avec les hormones de croissance, avec les OGM, avec des élevages industriels. Donc il y aura d'autres problématiques à régler dans le cadre de ces accords. Mais il ne faut pas s'exciter tout de suite. Il faut attendre de voir venir quels sont les points qui sont négociés. Jusqu'à présent, il faut dire, les derniers accords, on a chaque fois pu obtenir des situations qui n'ont pas porté des grands préjudices à l'agriculture suisse.
Merci beaucoup Francis Aiguer, directeur adjoint de l'Union Suisse des Paysans. Vous réagissiez aux manifestations agricoles en France et à l'intérêt pour la Suisse de signer ou non un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur et aussi avec les États-Unis. On vient d'en parler. Belle soirée à vous.
Merci, bonne soirée.
Et à 18h19, on revient sur les propos de Guy Parmelin dans notre matinale.
La Suisse a toujours évité de vouloir maintenir à bout de bras, à coup de plusieurs dizaines ou centaines de millions de francs, des industries qui, sous la forme actuelle, n'avaient pas d'avenir. Et ici, on est dans une de ces phases délicates.
Le Conseil fédéral chargé de l'économie réagissait aux sérieuses difficultés rencontrées par plusieurs industries en Suisse, notamment dans la sidérurgie, avec des centaines d'emplois supprimés. Pour Guy Parmelin, donc, la Confédération ne doit pas venir en aide à ces entreprises, ni développer une politique industrielle. Erreur ou stratégie payante sur le long terme? On en débat avec nos deux invités, Jean-Luc Ador, conseiller national UDC, et Philippe Cordonnier, responsable roman de Suisse, même l'association suisse de l'industrie des machines. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Luc Ador, vous ne partagez pas l'avis de votre conseiller fédéral?
Eh bien non, avec toute l'amitié et le respect surtout que j'ai pour le conseiller fédéral Parmelin, en charge de l'économie. Moi déjà, je ne sais pas si c'est le moment de constater le décès de ces industries, notamment de la sidérurgie ou de la métallurgie suisse, parce que il a parlé de pas tenir à bout de bras des industries qui n'auraient pas d'avenir. Donc je suis pas convaincu qu'on en est à ce stade-là. Bah,
il disait un peu avant dans l'interview qu'il y a des surcapacités, que dans un environnement de 150 km à peu près, dans une circonférence de 150 km, il y avait beaucoup d'autres aciéries et que dès lors c'était pas une industrie stratégique pour la Suisse.
Bon, moi déjà je pense que c'est une industrie stratégique pour la Suisse parce que la Suisse se désindustrialise petit à petit. Et puis pourquoi est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Parce qu'on a laissé certaines industries, quand je dis « on », ce sont tous les pays européens, mais la Suisse avec eux, on les a tous laissés partir parfois à l'autre bout du monde, là où la main-d'œuvre était bon marché. Et puis maintenant, on doit quand même constater en quoi est-ce que ces industries sont stratégiques. C'est simplement parce que quand on a besoin de ces matériaux pour d'autres industries de transformation, etc., que représentent aussi M. Cordonnier et la fêtière suisse même, si on doit compter que sur l'étranger, eh bien je pense qu'on a un sérieux problème, si ce n'est de souveraineté, du moins d'autonomie. Si on n'a pas appris pendant le Covid qu'il est des industries, des secteurs de notre économie que nous devons soutenir, je dirais pas coûte que coûte, mais nous avons quand même les moyens de faire certaines choses, eh ben je pense qu'on a des sérieux problèmes de leçons à tirer de ce qui s'est passé pendant le Covid, et puis des lacunes que nous avons dû constater dans notre autonomie.
Donc on va faire réagir.
D'avoir dans ce domaine-là un sursaut d'autonomie et de souveraineté.
On va faire réagir Philippe Cordonnier. L'industrie helvétique doit se débrouiller toute seule, c'est en substance le message de Guy Parmelin. Une position qui vous satisfait?
Alors sur le principe, oui, parce qu'il faut voir que l'industrie suisse s'est bien développée ces dernières années. Effectivement, il y a des secteurs qui sont à la peine et il y a des secteurs comme l'industrie de l'acier ou des fonderies qui ont quasiment quitté la Suisse depuis plusieurs décennies pour des questions de coûts, des questions structurelles, et ça fait partie de l'évolution naturelle d'une industrie. Mais ces disparitions de postes ont été largement compensées par d'autres domaines industriels qui se sont développés en parallèle, avec à la clé beaucoup plus de postes de travail à haute valeur ajoutée. Donc ça n'est pas juste, la Suisse ne s'est pas désindustrialisée, au contraire, nous avons dans notre branche 10% de plus de places de travail qu'il y a 20 ans, donc ça va à l'encontre justement de cette perception de cette désindustrialisation que nous n'avons pas, et ces secteurs qui disparaissent, malheureusement, ce sont des places de travail avec une faible valeur ajoutée, qui sont en concurrence avec les pays qui nous entourent, mais qui sont compensés par d'autres postes à plus haute valeur ajoutée qui font la renommée de la Suisse dans le monde entier en tant qu'industrie de haute valeur ajoutée d'exportation.
Mais Philippe Cordonnier, il n'en reste pas moins que ce sont des secteurs comme importants, notamment pour la construction, l'acier est important. Si on n'a plus d'aciérie dans notre pays, on devra importer l'acier. Est-ce que ce n'est pas dangereux en termes de souveraineté?
Mais la Suisse, de toute façon, est un pays qui commerce, qui importe et qui exporte. Donc, on n'est pas autonome dans de très nombreux secteurs, on l'a entendu avant avec l'agriculture, et ce n'est pas ce secteur qu'il faut absolument soutenir juste pour cette partie des aciers. Il y a d'autres entreprises qui exportent des produits à très haute valeur ajoutée. L'autre acierie, qui est en difficulté actuellement, vend des produits à très haute valeur ajoutée pour l'industrie automobile et aéronautique. Simplement, elle est confrontée à des coûts d'énergie trop élevés. Donc, il ne faut pas mélanger simplement la situation de l'approvisionnement et puis les contextes actuels des hauts prix de l'énergie qui sont la conséquence de la guerre en Ukraine.
Oui, Jean-Luc Adore, votre, pour le rappeler, hein, votre conseiller fédéral UDC, Guy Parmelin, disait aussi, voilà, la Suisse, historiquement, n'a jamais tenu ces entreprises qui étaient, on va dire, en déclin à tour de subventions, à coups de subventions. Elle a très bien fait, puisque ça a permis, justement, comme le rappelait Philippe Cordonnier, à d'autres emplois à haute valeur ajoutée d'apparaître en Suisse, de se développer en Suisse. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, au fond, ces restructurations, entre guillemets, je dirais, naturelles?
Bon, la Suisse a moins de scrupules quand il s'agit de ses banques. Donc là, les milliards coulent à flot. Alors, finalement...
Oui, pardonnez-moi. Guy Parmelin disait pour les banques, parce qu'il était très précis aussi là-dessus, pour les banques, c'est le risque systémique, c'est-à-dire c'est d'autres banques suisses et d'autres banques mondiales qui seraient en difficulté, disait-il. Là, on n'est pas dans ce cas-là avec les aciéries.
Bon, il y a le risque systémique, mais il y a l'importance, si ce n'est systémique, du moins stratégique, de certaines industries. Et contrairement à Monsieur Cordonnier, ce qui nous divise peut-être ce soir, c'est une foi limité de mon côté dans les vertus, parce que c'est ça en fait les vertus, le credo libéral, c'est les vertus de la division internationale du travail. Qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est trop cher chez nous, on laisse faire les autres, les Chinois, les Coréens ou Dieu sait qui. Sauf que quand on a besoin, quand ça va mal dans le monde, maintenant ça va pas très bien, eh bien on sait qu'on a besoin. Donc qu'est-ce qui justifie de faire une entorse? Dans le fond, au libéralisme, parce que Monsieur Cordonnier, et vous aussi, j'imagine, et nos auditeurs aussi, savent que je suis pas encore inscrit au Parti Socialiste.
Encore.
Qu'est-ce qui justifie une intervention, en l'occurrence de la Confédération? Il faut des critères clairs, donc il faut quand même une importance stratégique. Je pense que c'est le cas de la sidérurgie en Suisse, qui est en voie de disparition sans ça. Et puis, quand on parle de valeur ajoutée, écoutez, il faut aussi parler pas seulement du personnel de ces entreprises, du personnel suisse ou d'ailleurs étranger qui travaille chez nous de ces entreprises, mais de tous les sous-traitants de ces entreprises. C'est donc de tout un tissu industriel dont on parle dans un domaine qui est pour moi d'importance, encore une fois pas systémique, faut peut-être pas exagérer, mais stratégique. Et ça justifie une intervention et pas simplement de rester passif, à assister à des phénomènes qui nous dépassent. Parce que nous sommes un pays riche, nous avons les moyens, dans une certaine mesure, de certaines interventions. Et la question, c'est, est-ce qu'on va les laisser mourir? Moi, je dis non.
Philippe Cordonnier, qu'est-ce que vous dites ce soir à toutes ces personnes qui sont licenciées, certaines peut-être âgées, qui ne retrouveront pas un emploi, que, ma foi, c'est comme ça, elles ne sont pas dans le bon secteur?
Mais c'est évidemment une situation qui est pas tenable pour ces personnes, je le comprends parfaitement. Mais aujourd'hui, on a une situation économique qui est relativement difficile. Nous allons demain publier les chiffres du troisième trimestre de notre économie et ils sont mauvais. Donc nous avons en parallèle à cette situation bien particulière des centaines d'autres emplois qui sont en danger parce que la situation économique globale est difficile. Notre marché principal, qui est l'Allemagne, avec 25% de nos exportations, est dans une situation de récession. Donc nous avons plusieurs pourcents de baisse d'entrée de commandes et de chiffre d'affaires dans notre branche. Ça représente des centaines d'emplois, voire des milliers d'emplois qui sont à risque à cause d'une situation économique difficile. Donc c'est l'ensemble du secteur qui est en crise aujourd'hui. Et ce qu'il faut, ce ne sont pas des subventions ponctuelles, mais ce sont des conditions cadres globales d'accès au marché. On a parlé avant d'accords de libre-échange. Et les accords de libre-échange que nous avons avec la Chine, par exemple, depuis 10 ans, avec l'Inde, que nous espérons bientôt venir en vigueur, avec l'Europe, depuis de très nombreuses années, tous ces accords de libre-échange ont permis à notre industrie d'être florissante. Et par rapport à d'autres pays comme la France ou l'Angleterre qui ont perdu leur industrie, nous avons d'où maintenu notre industrie grâce justement à ces accords de libre-échange et cette politique libérale sans intervention de l'État.
Mais ça, c'est valable pour les industries qui sont tournées vers l'exportation, pas toujours pour celles qui sont tournées vers le marché domestique.
Oui, absolument. Notre industrie est une industrie d'exportation de près de 80%, 60% vers l'Union européenne. Donc, on est une industrie d'exportation qui vit sur les marchés mondiaux.
Mais il y a des industries aussi qui sont tournées vers le marché suisse.
Oui, absolument.
C'est le cas, entre autres, c'est le cas quand même de la sidérurgie qui est tournée partiellement vers l'exportation, mais aussi vers le marché intérieur. Et les entreprises dont nous parlons, ce sont des entreprises clés, par exemple, pour le secteur de la construction, qui est un secteur très important. qui est un secteur très important dans notre pays. Et la question, c'est de savoir si nous voulons sombrer dans une dépendance toujours plus grande à l'égard de l'étranger. C'est ça, pour moi, c'est ça que je ne veux pas. Et c'est ça qui justifie une intervention de la Confédération, parce que c'est pas seulement à coup de subvention, il y a toutes sortes d'autres moyens. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Cordonnier quand il parle de conditions cadres. La question, c'est est-ce que la Confédération est vraiment impuissante à améliorer les conditions cadres, au moins de manière temporaire, pour ces industries? Moi, je dis non. C'est pour ça que je peux pas me satisfaire, malgré tout le respect que j'ai pour mon conseiller fédéral, de ses déclarations de ce matin. Parce que c'est pas de lui qu'il s'agit, c'est du conseil fédéral aussi comme tel. Cette politique, ou cette, plutôt ce refus d'une véritable politique économique, pour moi, c'est pas un gros mot. Donc, pour moi, on n'est pas en train de se demander si on va faire un plan quinquennal à la soviétique. On est en train de se demander si on veut se donner les moyens de maintenir des secteurs clés importants pour l'autonomie de notre pays.
Philippe Cordonnier, de nombreux pays développent des politiques industrielles. Pourquoi pas la Suisse au fond?
Mais pas la Suisse est un tout petit pays dans ce grand marché mondial. Nous n'avons pas de marché intérieur suffisant pour ces entreprises. Elles doivent obligatoirement exporté, je l'ai dit, 80% de notre branche. Donc, on ne peut pas comparer à un grand pays qui a une autonomie pour sa propre industrie, comme les pays européens, États-Unis, Chine ou autres. Et nous sommes condamnés par nature à exporter, donc à être confrontés à l'ensemble des marchés mondiaux. Et on ne peut pas se contenter de uniquement subventionner nos entreprises sur le marché intérieur, qui n'est absolument pas suffisant. Et nous devons faire du commerce avec les pays qui nous entourent, voire au-delà. Et il y a des solutions, puisque M. Parmelin l'a dit, il y a des possibilités qui existent aujourd'hui de soutenir ces entreprises par exemple, des baisses de taxes sur les coûts d'électricité, qui sont vraiment l'élément principal qui aujourd'hui pénalise ces entreprises.
Merci beaucoup à vous deux d'être venus débattre, Jean-Luc Adore, conseiller national UDC, et Philippe Cordonnier de Suisse Même, la fêtière donc de l'industrie. Belle soirée à vous deux.
À vous aussi, merci.
Et puis...
Infotrafic RTS.
Il n'y a plus de danger lié à la présence de piétons sur l'autoroute Genève-Lausanne entre le pont sur la Versoix et Coppet. Et à 18h31, dans la suite de cette émission, les nouveaux montants de l'impôt sur les véhicules suscitent la sidération à Genève. Le MCG demande un moratoire. Deux élus en débattront dans un instant. L'UNRWA risque de s'effondrer. Nous vivons un moment critique. C'est l'avis du patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.
Oui, le Suisse Philippe Lazzarini est aujourd'hui à Genève pour des rencontres au Palais des Nations. Nicolas Vultier, le commissaire général de l'UNRWA, en a profité pour rencontrer la presse et pour réitérer ses vives inquiétudes quant au futur des réfugiés palestiniens et à l'avenir de l'agence.
Oui, pour Philippe Lazzarini, le compte à rebours est engagé. Tout va se jouer d'ici la fin du mois de janvier 2025.
Je suis souvent venu ici pour parler de la situation financière désespérée de l'agence, mais je pense que aujourd'hui, effectivement, on en est beaucoup plus loin. Ce n'est pas que la crise financière qui est une crise existentielle. Il y a une crise politique, il y a une volonté politique de démanteler l'agence par un État membre des Nations Unies, l'État d'Israël.
En octobre dernier, Israël a décidé d'interdire toute activité de l'UNRWA sur son sol, une décision qui met en péril la santé, l'éducation, l'assistance sociale pour des centaines de milliers d'enfants et des millions de réfugiés. Israël exige une alternative à l'UNRWA. Pour le gouvernement Netanyahou, l'organisation est infiltrée par des terroristes du Hamas et donc complice de terrorisme. Philippe Lazzarini dément fermement ces accusations et pour lui, il n'y a pas de plan B.
Si vous parlez d'amener un camion avec de la nourriture, vous trouverez certainement une alternative. Bien qu'aujourd'hui, la présence de l'UNRWA est telle, et je rappelle juste un chiffre, nous avons 13 000 employés, la deuxième plus grande agence des Nations Unies présente à Gaza est le Programme alimentaire mondial avec 200 employés.
Pour le patron de l'UNRWA, demander à d'autres agences onusiennes, à des sociétés privées ou à des ONG de prendre le relais est simplement impossible. Il souligne que la seule structure qui pourrait reprendre ce que fait l'UNRWA, c'est en fait un État palestinien fonctionnel.
Et puis Nicolas, pour Philippe Lazzarini, l'UNRWA est également victime de campagnes politiques et de désinformation d'une ampleur sans précédent.
Et malgré ces vents contraires, malgré l'élection de Donald Trump à la présidence américaine qui n'est pas vraiment vu comme un grand ami des Palestiniens et de l'UNRWA, Philippe Lazzarini a perçu une vraie solidarité de la communauté internationale au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale de l'ONU par exemple. Le commissaire général constate également que son personnel est sous pression, sous tension permanente. Il y a la guerre, les bombardements, mais il y a aussi maintenant les risques d'arrestation, les interrogatoires, les fouilles et les accusations de complicité de terrorisme.
Nicolas, qu'attend Philippe Lazzarini de la Suisse?
Alors il souhaite bien évidemment que la Suisse continue de soutenir financièrement l'UNRWA.
J'espère que la Suisse reste un partenaire de l'agence, reste un partenaire du multilatéralisme, reste un partenaire en fait des décisions qui ont été prises par l'Assemblée générale des Nations Unies et que dans ces conditions, elle continue d'être un partenaire de l'UNRWA, qui est le véhicule que la communauté internationale a décidé, qui est là pour aider les réfugiés palestiniens jusqu'au jour où il y aura une solution politique juste et durable.
Enfin, Philippe Lazzarini n'a aucun commentaire à faire sur la note du Département fédéral des affaires étrangères rendue publique la semaine dernière par la RTS. Note qui disait qu'un arrêt total du financement de l'UNRWA pourrait coûter à la Suisse des poursuites pour complicité d'un acte de génocide.
Merci Nicolas Vultier. Il est 18h35, vous écoutez Forum. Tout autre sujet à présent, le réseau social X, toujours au centre de l'actualité.
Oui, aujourd'hui, Reporters sans frontières annonce poursuivre le réseau d'Elon Musk devant la justice française pour, entre autres, diffusion de fausses nouvelles. Et depuis les élections américaines, on assiste à une vague de départ de X vers Blue Sky. Lancé comme alternative à Twitter, ce réseau social annonçait la semaine passée avoir gagné 1 million de personnes en seulement 24 heures. Miruna Coca-Cosma, Blue Sky va-t-il remplacer X?
Oula, on va pas si vite, s'il vous plaît. Hein. Ironique, hein, parce que Blue Sky est un réseau social imaginé par Jack Dorsey, qui est
le cofondateur de Twitter.
Exactement, et Blue Sky connaît une croissance soudaine, c'est vrai. La hausse est spectaculaire et porte le nombre total d'utilisatrices et utilisateurs à 19 millions à l'heure à laquelle on parle. C'est l'application la plus téléchargée du moment sur l'App Store, même en Suisse, devant Threads et ChatGPT. Mais il s'agit plutôt d'un mouvement de fond, en fait. L'annonce faite par Blue Sky survient peu après celle d'Instagram concernant Threads. Le réseau social de Meta avait lui enregistré plus de 15 millions d'inscriptions au mois de novembre. Si les internautes quittent X, c'est parce qu'ils sont fatigués par le manque de modération, fatigués par la modification de son algorithme pour donner plus de visibilité aux publications d'Elon Musk, largement pro-Trump, lassés aussi par les comptes d'extrême droite réintégrés par le milliardaire américain. Et ce n'est pas seulement les internautes, hein, il y a les médias aussi. Les quotidiens britanniques, The Guardian, puis espagnol La Vanguardia, ont claqué la porte de X la semaine passée. X devenu, selon eux, une plateforme médiatique toxique, un vecteur de désinformation.
Mais pourquoi Blue Sky attire-t-il autant de nouveaux utilisateurs?
Eh bien, parce que Blue Sky se veut très intuitif. Hein. On a l'impression de revenir au Twitter d'antan. On est loin des jardins fermés, hein, comme on les appelle, de Facebook ou Instagram. Sur Blue Sky, les utilisateurs peuvent personnaliser leur propre flux, modérer eux-mêmes les contenus qu'ils souhaitent voir ou éviter. La modération est donc partagée entre les opérateurs de serveurs et les individus. De nombreuses figures publiques ont déjà rejoint Blue Sky, comme l'actrice américaine Jamie Lee Curtis ou Stephen King. Malgré cette croissance, Blue Sky reste loin derrière ses concurrents en termes d'utilisateurs actifs. Threads, par exemple, le réseau social de Meta, en revendique plus de 275 millions.
Et quelle implication pour nous, utilisateurs des réseaux sociaux, face à cet exode?
Eh bien, on assiste à une période de transition. Hein. X, l'ancien Twitter, perd donc progressivement son rôle de place publique ouverte à toutes et à tous. La plateforme prend un virage plus conservateur sous l'influence d'Elon Musk. En fait, chaque sensibilité politique va créer désormais son propre espace de discussion. Conservateurs, progressistes, droite, gauche vont s'isoler dans leurs réseaux respectifs. En même temps, on assiste à cette émergence des réseaux sociaux décentralisés comme Mastodon ou Blue Sky qui arrive avec cette promesse, plus de transparence dans le fonctionnement de leurs algorithmes. Ces plateformes disent ne pas chercher à tout prix le sensationnel pour générer du trafic, mais ces nouveaux réseaux ne représentent qu'une petite partie du marché. La grande majorité des utilisateurs est sur des plateformes où le contenu polarisant est privilégié pour maintenir l'engagement. Résultat, les espaces de dialogue commun se font de plus en plus rares.
Mais il reste encore Forum. Merci beaucoup Miruna Coca-Cosma.
Forum, Valentin Emery, Mehmet Gültaş.
À Genève, le MCG demande un moratoire sur la hausse de la taxe automobile.
Oui, le peuple avait accepté en mars dernier d'imposer plus lourdement les véhicules les plus polluants. Eh bien, résultat, plusieurs automobilistes ont reçu ces derniers jours une facture plutôt salée jusqu'à plus de 800% d'augmentation. Pour en débattre, deux députés genevois sont avec nous. Anna Roch pour le MCG et Sylvain Thébault pour le Parti Socialiste. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Anna Roch, le MCG qui réclame donc un moratoire sur cette taxe automobile. Pour quelle raison le peuple a voté, non?
Alors c'est vrai que le peuple a voté. Maintenant, je pense que toutes les personnes qui ont accepté cette nouvelle loi et cette nouvelle tarification ne s'imaginaient pas, et nous non plus d'ailleurs, d'avoir des hausses aussi importantes que celles qu'on a pu voir ces derniers jours.
Oui. Vous avez notamment partagé sur les réseaux sociaux la capture d'écran d'une facture. Alors c'est pas votre véhicule, mais on lit que la taxe s'élève à près de 10 000 francs. Comment on l'explique?
Alors j'en ai reçu d'autres depuis, parce qu'évidemment que les réseaux sociaux amènent des réponses et beaucoup de questionnements. Donc j'ai reçu encore aujourd'hui des factures qui passent de 1 700 à 9 400 francs, ou même pour des plus petits véhicules qui payaient 200, 250 francs avant et qui arrivent à 600, 700, 800 francs actuellement. Donc beaucoup de personnes qui ne peuvent pas en fait répondre à cette augmentation.
Sylvain Thévaux, vous pouvez comprendre que certains citoyens puissent l'avoir mauvaise ce soir?
Oui, bien sûr. Et il faut accompagner ces hausses, c'est-à-dire échelonner les paiements. Et pour certains cas particuliers, voir avec le service des automobiles quels arrangements sont possibles. Mais l'ensemble ne devrait pas avoir de hausse fiscale vu que le projet de loi est à l'équilibre. C'est-à-dire que ça rapporte environ 100 millions d'impôts, la taxe automobile. Et avec ce nouveau projet de loi, c'est toujours 100 millions. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui voient leur fiscalité un peu alourdie, si c'est un vieux véhicule très polluant, et d'autres qui vont gagner, particulièrement les véhicules plus lourds et moins polluants, donc ceux qui ont, par exemple, qui vont très vite. Il y a eu une volonté de taxer davantage les émissions de CO2 et le poids des véhicules électriques, mais dans l'ensemble, la fiscalité, elle est neutre.
Oui, sauf que, Sylvain Thévaux, tous les détenteurs de véhicules à forte émission de CO2 ne sont pas des gens fortunés. Vous qui êtes sensible quand même à la justice sociale, que répondez-vous à ceux qui n'imaginaient pas que la facture serait aussi salée? Quoi, tout simplement qu'ils auraient dû mieux se renseigner, alors qu'ils n'ont pas toujours les moyens de changer de véhicule?
Non, alors pas du tout, évidemment. Nous, on est très sensibles à la charge que ça peut occasionner pour les personnes, vous l'avez dit, qui ont des petits revenus. Le projet de loi, il était général. Il touche plus de 300 000 véhicules. Environ 200 000 payent 120 francs de taxes automobiles. Il se peut qu'il y ait des cas particuliers. Il faut les étudier attentivement. Et je l'ai dit, avoir des mesures sociales et des mesures d'accompagnement. Maintenant, on peut pas non plus sortir 10, 15 factures, puis dire, regardez, il faut faire un moratoire sur ce projet de loi. Ça, c'est absurde. C'est vraiment racoleur. Et là, il faut un tout petit peu de recul. On compte sur Monsieur Maudet, qui lui aussi soutenait ce projet de loi en disant, ça va être une meilleure taxation, plus efficace, pour nous fournir les chiffres, combien de personnes sont impactées et combien, éventuellement, ont des petits revenus et sont mis en difficulté. On va les soutenir.
Anna Roch, votre proposition de moratoire est une proposition racoleuse, nous dit Sylvain Thévaux. Vous lui répondez quoi?
Non, alors il répond à sa propre question. Je pense que de mettre un moratoire et de pouvoir analyser combien de personnes sont impactées par des hausses aussi importantes que vous avez dites, entre 500 et 800% d'augmentation. Alors c'est vrai qu'on peut pas s'arrêter sur des cas particuliers, mais aujourd'hui, moi j'ai un exemple, c'est beaucoup de personnes qui en effet n'ont pas les moyens de ou qui n'ont pas les moyens aujourd'hui, qui n'ont pas eu les moyens d'avoir un véhicule plus récent et éventuellement moins pollueur. On l'a vu sur une antenne régionale d'un monsieur qui a demandé à payer en plusieurs fois, on lui a dit non. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de modalité de paiement pour cet impôt. Et puis je me dis, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû... Alors, je prends pour moi cette faute. Peut-être que en tant que parlementaire, on aurait dû imaginer un plafond à cet impôt, parce que payer plus de 9000 francs, même si c'est qu'une personne à Genève, payer plus de 9000 francs pour un impôt sur le véhicule, ça me paraît complètement hallucinant. Et je me pose la question, est-ce que c'est décent de demander un tel impôt pour simplement avoir une voiture qu'on ne peut pas changer et qui date peut-être d'avant 2010.
Sylvain Thévaux, vous l'avez dit, hein, le but n'est pas d'augmenter la manne fiscale avec cette réforme, mais le risque, c'est peut-être qu'elle diminue si de nombreux Genevois vont faire immatriculer leur voiture, par exemple s'ils ont une résidence secondaire en Valais. Vous êtes prêt à prendre ce risque ?
L'enjeu du projet de loi, c'était plutôt de rapatrier les véhicules très puissants immatriculés en Valais notamment. Donc peut-être il y a un effet de bord qui va conduire certains à vouloir s'immatriculer ailleurs. Pour rappel, on est imposé sur son lieu de domicile et on doit imposer son véhicule là où on réside. Donc on peut toujours imaginer qu'il y a des fraudeurs. La meilleure recommandation, c'est de se tourner vers des modèles électriques, plus léger. Et là aussi, il faut peut-être des mesures d'accompagnement pour inviter les gens à changer de véhicule, financièrement incitatif. Et je réfléchirai, et mon groupe volontiers avec le MCG, pour trouver des meilleures solutions. Il faut rappeler que ce projet de loi est un contre-projet à une initiative de l'UDC qui voulait simplement baisser l'impôt par deux pour favoriser davantage de voitures. On le voit aussi avec la votation du 24 novembre sur l'extension des autoroutes. Cette logique-là, elle conduit dans le mur. Donc ceux qui ont allumé la mèche de ce projet de loi, c'est malheureusement les mêmes qui aujourd'hui disent « Mon Dieu, c'est un scandale. Le projet ancien était désuet et maintenant, pour conclure là-dessus, si on veut accompagner ce changement, bien sûr, il y a des mesures plus positives, mais il ne faut pas revenir en arrière sur quelque chose qui a été voté à plus de 58% par la population.
Et ça sera le mot de la fin de ce débat auquel je vous remercie d'avoir participé. Anna Roque pour le MCG, Sylvain Thévaux pour le Parti Socialiste de députés donc, du Grand Conseil Genevois. Je souhaite une très belle soirée à tous les deux. Merci.
Merci à vous aussi.
Merci pareillement.
Et des réseaux sociaux, on passe à la finance durable.
Bonsoir Angela De Wolf.
Oui, bonsoir.
Vous êtes la fondatrice de Conzer, société indépendante spécialisée dans l'investissement responsable. Avec vous, on va revenir sur les difficultés rencontrées par plusieurs acteurs du photovoltaïque. Ce matin, l'entreprise baloise Prime Energy Cleantech a officiellement été déclarée en faillite. C'est cette entreprise dans laquelle de nombreux Suisses, de nombreux Romands ont investi et dont Bertrand Piccard était l'ambassadeur. La faillite menace aussi un autre acteur important du secteur, la société Meyer Burger. Angela De Wolf, comment expliquer ces faillites ou ces menaces de faillite ?
Alors, je crois que d'abord, il faut effectivement, c'est très regrettable que ce type de société tellement engagée dans ces énergies renouvelables souffre actuellement. Je dirais qu'il faut distinguer deux choses. C'est la qualité même de l'entreprise, et je pense qu'il y a une grande différence à faire entre les deux entreprises. Effectivement, on est dans des secteurs qui peuvent paraître porteurs, qui sont en plus des sociétés qui faisaient apparemment bien leur travail, mais malheureusement, en tout cas dans un des cas, on voit que la gestion n'a pas été à la hauteur. Il y a des éléments aussi de risque de surendettement. Donc gérer une entreprise doit être fait de manière optimale, je dirais, tant d'un point de vue financier que sur les questions ou sur les thématiques dans lesquelles ils investissent. Ouais. Dans l'autre cas, enfin, à chaque fois, il y a des éléments particuliers qui interviennent, mais certes, la situation aussi générale ne favorise pas... ces activités.
Oui, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui se sentent grugés. Hein, Angela De Wolf, on leur avait promis des intérêts alléchants. Résultat, ils ont tout perdu. La finance durable, est-ce une finance fiable au fond ?
Alors, la finance durable, c'est comme toute autre finance. On est dans une logique d'investissement et lorsqu'on fait de la finance durable, on investit dans des entreprises. Et à chaque fois, ce qu'il faut s'assurer, c'est d'abord la qualité de l'entreprise dans laquelle on investit, le projet, la structuration évidemment, soit de la dette, soit de l'investissement que l'on va prendre. Et à ceci s'ajoute une logique plus long terme qui est d'envisager finalement est-ce que l'entreprise a de plus des caractéristiques qui rendent sa pérennité meilleure parce que plus efficace, plus économe. Donc on ne peut pas associer les deux choses. C'est regrettable. On a déjà vu dans bien d'autres secteurs, que ce soit la bulle Internet, c'est-à-dire qu'on est dans un momentum où effectivement il va y avoir une nécessité de transition. Ce business model et cette activité va rester prioritaire et on le sait et elle va se passer dans les 10 ou 15 prochaines années. Entre-temps, évidemment, il peut y avoir des difficultés spécifiques ou des difficultés plus générales aussi dues à des questions macroéconomiques.
La tendance est quand même globale. Une récente étude d'un institut de recherche en finance de Zug montre qu'après avoir suscité un énorme engouement, les investissements verts ne séduisent plus les Suisses. On le sait, ils séduisent de moins en moins aussi les Américains. La tendance est vraiment globale. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une crise importante de la finance durable ?
Alors, il y a des vents contraires. Et si je peux me permettre, si on reprend un historique, on va dire que la finance durable était marginale au début des années 2000 dans le démarrage, qu'elle a connu une accélération spectaculaire, en particulier depuis 2015 jusqu'à 2020, en raison aussi de ces enjeux climatiques où la finance a été interpellée. On atteignait plus de 50% du marché qui intégrait d'une manière ou d'une autre la durabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une période de consolidation. Mmh. Il y a ces facteurs macroéconomiques, ces retours en arrière, les problèmes de crise, également de guerre, qui ont amené peut-être à ce léger désintérêt. Mais je dirais que structurellement, si on peut dire que des privés se sont retrouvés désintéressés parce que l'effet de mode est passé, on va dire que structurellement, on sent bien que les institutionnels se préparent quand même à envisager l'investissement dans une logique qui est la prise en compte des enjeux financiers, économiques, sociaux et de gouvernance.
L'arrivée de
et
Donald
je crois
Trump.
Qu'il faut bien distinguer les deux choses.
D'accord. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir va probablement freiner des investissements en vert. Êtes-vous malgré tout confiante à long terme ?
Oui, vous avez raison, on va avoir une période probablement assez délicate dans les 4 prochaines années à venir. Je pense que l'Europe va maintenir son cap avec ses exigences réglementaires liées à la notion de durabilité. Je reste convaincue que les États-Unis vont continuer à investir massivement dans tout ce qui est transition, tout en offrant la possibilité d'investir évidemment dans le pétrole pour des questions d'activité. On sait aussi que Tesla, donc Elon Musk, massivement investi dans tout ce qui est voiture électrique. Donc on voit bien qu'il y a des contradictions. On sent que le cadre va être un peu plus difficile et que la finance durable arrive à une certaine maturité. Il faut faire des choix avec une parcimonie. Il faut
ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit.
Exactement, ouais. Beaucoup de diversification. Mais l'avenir sera quand même pour des sociétés, à mon avis, efficientes à tous les points de vue, mais également financièrement.
Merci beaucoup, Angela Devol, fondatrice de Cancer, société indépendante spécialisée dans l'investissement responsable. Merci d'avoir été quelques minutes avec nous dans ce forum. On vous souhaite une très belle soirée.
Merci, bonne soirée.
Et l'actualité de ce lundi, c'est aussi le lancement d'un nouveau bachelor à l'HES Valais.
Oui, une nouvelle formation à cheval entre le numérique et les sciences du vivant à destination de l'industrie. Des cours pensés donc pour les besoins d'entreprises comme Nestlé, Novartis ou Lonza. Nous avons reçu précisément le patron du site de Viège de Lonza. Lonza qui a fait appel à beaucoup de main-d'œuvre étrangère ces dernières années. Nous avons demandé à Renzo Cicillini si c'était justement en raison du manque de compétences numériques en Suisse.
Oui, nous avons naturellement beaucoup de spécialistes en Suisse, mais nous avons une manque, une pénurie. C'est aussi le développement démographique qui donne ça. Mais c'est clair, nous devons recruter beaucoup de personnes de l'étranger. Aujourd'hui, nous avons plus que 80 nationalités qui parlent plus que 50 langues. Ça vous aussi montre qu'on ne peut pas recruter des personnes en Suisse. Ouais.
Mais pourquoi ce bachelor seulement maintenant, si le problème est connu depuis quelques années? Vous êtes notamment en partenariat avec l'HES depuis 2020, alors pourquoi avoir attendu 2024 pour lancer ce bachelor?
Ça, on a aussi dans les collaborations, dans les études, on a aussi la digitalisation parce que, par exemple, l'HESSO a aussi un digital bachelor de biotechnologie, mais maintenant on a vu que l'artificiel intelligence, ça vient très, très vite. Mm-hmm. Et à cause de ça, c'est aussi important d'avoir une étude dédiée pour ce thème.
Mm-hmm. Renzo Cicillini, Lonza est une entreprise en croissance constante. La semaine dernière, vous avez annoncé l'extension de 2 lignes de production, créant 200 nouveaux emplois d'ici 2028. Cela tranche avec d'autres secteurs comme l'acier ou le verre, dont les annonces de licenciements s'enchaînent. On en débattait d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que, selon vous, l'État doit en faire davantage pour aider l'industrie en développant une vraie politique industrielle ?
Alors, je pense que la collaboration avec l'État, c'est excellent. Nous avons des collaborations sur des étages différentes. Par exemple, nous avons fait avec l'État le Mint Center. C'est un centre pour des jeunes qui viennent dans l'école. Ils visitent aussi l'ONSA, mais c'est pas seulement un Mint Center l'ONSA, c'est un centre ici pour la région. Alors, nous avons beaucoup de collaborations aussi avec la HESSO, aussi les conditions générales. Je pense que nous pouvons être très heureux avec la collaboration avec l'État du Valais.
Mais pour vous, donc, il ne faut pas de vraie politique industrielle à l'échelle nationale, un soutien de la Confédération aux industries?
C'est toujours difficile de répondre avec une réponse général, c'est important que nous avons des bonnes conditions générales. Ça peut être des allègements fiscaux, par exemple, si vous comparez ça avec autres pays. Mais pour chaque législation, il faut demander si c'est un avantage ou pas. Et quelquefois, je me demande, est-ce que c'est un avantage ou pas? Ça, c'est très important.
Voilà, Renzo Cicillini, directeur du siège de Viège de l'entreprise Lonza que nous avons reçu cet après-midi.
À 18h54, un mot de football avec le dernier match de l'année pour la Suisse et elle affronte l'Espagne ce soir à Tenerife. Bonsoir Joël Robert.
Bonsoir Valentin.
Face aux champions d'Europe, la Suisse s'en va au devant d'un match difficile, Joël.
Ouais, les Suisses doivent gravir une montagne. Vous savez, le plus haut sommet d'Espagne se trouve ici, du côté de Tenerife. C'est le mont Tedei. Je suis pas sûr que les Suisses, en avant-match, aient été grimper le mont, 3700 mètres. Il y a le plus haut mont d'Espagne, mais aussi la meilleure équipe d'Europe et probablement du monde qui joue aujourd'hui ici pour la première fois depuis 1996. C'est dire l'aventure qui attend la formation helvétique. Vous avez parfaitement raison, Valentin. C'est un match extrêmement compliqué. L'Espagne invaincue à domicile lors de ses 15 derniers matchs. Et savez-vous quelle équipe là-bas pour la dernière fois? Eh bien, c'est la Suisse. C'est la Suisse il y a 2 ans. Donc voilà, ça laisse peut-être augurer de quelque chose d'intéressant pour l'équipe de Suisse ce soir, qui ne part en tout cas pas favorite face à cette énorme équipe espagnole.
Alors, au-delà de la leçon de géographie, faisons une petite leçon de foot avec vous, Joël Robert. Qu'est-ce qui fait la force de ces Espagnols?
Bah déjà, ils ont une équipe extrêmement jeune avec Yamal, avec Williams, avec Pedri, des joueurs qui sont entourés d'hommes expérimentés. Ils ont des buteurs. L'équipe d'Espagne est l'une des équipes qui marque le plus de buts. Une défense solide, en quelque sorte, c'est ce que n'a pas l'équipe de Suisse. Et puis surtout, ce qu'il y a de très fort dans cette équipe d'Espagne, c'est que quand elle était au sommet de sa gloire au milieu, au début du 21e siècle, en 2008, 2010, 2012, elle gagnait tout. Elle faisait beaucoup de passes à mi-terrain. Les équipes avaient compris le schéma tactique. Depuis lors, l'Espagne a connu passage à vide et s'est réinventé. Maintenant, le jeu est beaucoup plus vertical, beaucoup plus rapide avec de la Fuente. L'équipe va vers l'avant. Donc, elle déjoue à nouveau les adversaires. Elle a complètement changé de tactique et ça, c'est vraiment très fort de la part d'une équipe de pouvoir se réinventer, de pouvoir, avec ses joueurs, proposer un aspect tactique que les autres équipes ne comprennent pas. Et ça porte ses fruits. L'Espagne championne d'Europe, l'Espagne actuellement la meilleure équipe du monde et ça, j'ose l'affirmer.
Un mot encore rapidement, Joël, sur l'équipe de Suisse avec un automne qu'on peut dire pour le moins compliqué.
Oui, très compliqué pour Mourad Yakin et ses joueurs. Mourad Yakin, ce soir, qui devra encore une fois opérer des choix avec les joueurs qu'il a à disposition. On s'attend vraiment, on ne connaît encore pas l'équipe, mais un 11 de départ complètement expérimental parce que les titulaires habituels, pour la plupart, ne sont pas là. Yakin l'a dit aujourd'hui, je prépare déjà 2025 et la campagne des qualifications pour la Coupe du Monde. On verra bien. Ce soir, ce qui est sûr, et je terminerai par là, Valentin, c'est qu'après cet automne moyen, l'équipe de Suisse doit faire quand même un gros match contre l'Espagne. Je la vois mal terminer avec un 5-0. Ça ferait vraiment un automne catastrophique si ça devait arriver.
Début du match à 20h45 à suivre dans Sport Première, spécial sur RTS La Première dès 20h05. Merci Joël Robert.
Et à 18h57, cette information qui vient de nous parvenir, un parlementaire UDC pourrait être poursuivi en justice. C'est ce qu'a décidé une commission du Conseil National il y a quelques minutes. C'est le sulfureux conseiller national argovien Andreas Glarner qui est concerné. La commission s'est prononcée cet après-midi sur le cas de 5 représentants de ce parti. Plusieurs ministères publics de la Confédération ou d'un canton ont demandé d'amener ces élus devant la justice. La commission dit oui pour l'un d'entre eux donc, et c'est un petit séisme, Phileas Sautier.
Oui, le départ de cette affaire, c'est une publication sur le réseau social X en juin, juste après les attaques au couteau de Solingen en Allemagne. Le conseiller national y dénonce diverses pratiques de l'islam et actes terroristes. Il suggère de mettre un frein à cette religion, Einhaltgebieten en allemand, et il a ponctué son message du hashtag Stop Islam. Le ministère public bernois a demandé d'ouvrir une enquête pour éventuelle discrimination raciale. La commission du conseil national répond positivement. Aujourd'hui, elle ne lève pas l'immunité d'Andreas Glarner, mais elle estime que cette publication sur les réseaux sociaux n'est pas protégée par l'immunité parlementaire. Ce n'est pas suffisamment en lien avec ses activités d'élu.
Est-ce que ça veut dire qu'Andreas Glarner va se retrouver devant le tribunal ?
Alors, ce n'est pas encore sûr. La décision n'est pas définitive. Aujourd'hui, c'est une commission du Conseil national qui s'est prononcée. Son équivalent au Conseil des États doit rendre la même décision pour qu'elle soit validée. Il faut que les deux commissions soient d'accord.
Et en 15 secondes, d'autres cas ont été examinés également cet après-midi. Quel est le verdict ?
Alors oui, c'est le cas notamment de deux élus, Thomas Séchy et Michael Graber. Vous vous souvenez peut-être de cette scène de juin dernier qui a été filmée. Les deux élus tentaient de forcer le passage de l'escalier principal du palais fédéral. Ils avaient une altercation avec la police fédérale. Pour ce cas, la commission veut davantage d'informations sur le déroulement des faits. Elle demande donc des précisions à la délégation administrative en charge de la gestion du Parlement.
Merci, Phileas Soutier.
Et place à la météo.
Demain, ciel couvert avec des pluies fréquentes plus marquées en fin de journée. Température en plaine de 7 à 10 degrés, de 4 à 8 en Valais. Limite des chutes de neige entre 1400 et 1700 mètres jusqu'en soirée.
La météo avec le Gruyère AOP et Gastrovo, vos partenaires des peintes ouvertes du 5 au 7 décembre.
Infotrafic RTS
avec Carrosserie Suisse, vos experts pour réparer les carrosseries et pare-brise, carrosseriesuisse.ch.
Il faut prévoir un quart d'heure de retard au passage de la douane de Valorbe et de Bardenay.
Voilà, c'est la fin de ce forum. À la technique ce soir, Yanis Bordas, Igor Imov, Brian Lani et Sylvain Michel. À l'édition, à la production, Renaud Malik, Jonas Dubois et Margot Fontaine-Vive-Curtaz. Quelques secondes, il sera 19h. Belle soirée.